Chapitre 5. Intérieur aussi connu des uns qu'inconnu des autres. À 3 heures après-midi, la portière, qui avait vu Mademoiselle Esther amenée mourante par un jeune homme à 2 heures du matin, venait de tenir conseil avec la grisette logée à l'étage supérieur, laquelle, avant de monter en voiture pour se rendre à quelque partie de plaisir, lui avait témoigné son inquiétude sur Esther. Elle ne l'avait pas entendu remuer. Esther dormait sans doute encore, mais ce sommeil semblait suspect. Seule dans sa loge, la portière regrettait de ne pouvoir aller s'enquérir de ce qui se passait au 4e étage, où se trouvait le logement de Mademoiselle Esther. Au moment où elle se décidait à confier au fils du ferblantier la garde de sa loge, espèce de niche pratiquée dans un enfoncement de mur à l'entresol, un fiacre s'arrêta. Un homme enveloppé dans un manteau de la tête aux pieds, avec une évidente intention de cacher son costume ou sa qualité, en sortit et demanda Mademoiselle Esther. La portière fut alors entièrement rassurée. Le silence et la tranquillité de la recluse lui semblèrent parfaitement expliqués. Lorsque le visiteur monta les degrés au-dessus de la loge, la portière remarqua les boucles d'argent qui décoraient ses souliers. Elle crut avoir aperçu la frange noire d'une ceinture de soutane. Elle descendit et questionna le cocher qui répondit sans parler et la portière comprit encore. Le prêtre frappa, ne reçut aucune réponse, entendit de légers soupirs et força la porte d'un coup d'épaule avec une vigueur que lui donnait sans doute la charité, mais qui, chez tout autre, aurait paru être de l'habitude. Il se précipita dans la seconde pièce et vit, devant une sainte vierge en plâtre colorié, la pauvre Esther agenouillée, ou mieux, tombée sur elle-même, les mains jointes. La grisette expirait. Un réchaud de charbon consumé disait l'histoire de cette terrible matinée. Le capuchon et le mantelet du domino se trouvaient à terre. Le lit n'était pas défait. La pauvre créature, atteinte au cœur d'une blessure mortelle, avait tout disposé sans doute à son retour de l'opéra. Une mèche de chandelle, figée dans la mare que contenait la bobèche du chandelier, apprenait combien Esther avait été absorbée par ses dernières réflexions. Un mouchoir trempé de larmes prouvait la sincérité de ce désespoir de Madeleine, dont la pose classique était celle de la courtisane irréligieuse. Ce repentir absolu fit sourire le prêtre. Inhabile à mourir, Esther avait laissé sa porte ouverte, sans calculer que l'air des deux pièces voulait une plus grande quantité de charbon pour devenir irrespirable. La vapeur l'avait seulement étourdie. L'air frais venu de l'escalier la rendit par degrés au sentiment de ses maux. Le prêtre demeura debout, perdu dans une sombre méditation, sans être touché de la divine beauté de cette fille, examinant ses premiers mouvements comme si c'eût été quelque animal. Ses yeux allaient de ce corps affaissé à des objets indifférents, avec une apparente indifférence. Il regarda le mobilier de cette chambre, dont le carreau rouge, frotté, froid, était mal caché par un méchant tapis qui montrait la corde. Une couchette en bois peint d'un vieux modèle, enveloppée de rideaux en calicot jaune à rosace rouge, un seul fauteuil et 2 chaises également en bois peint et couvertes du même calicot, qui avait aussi fourni les draperies de la fenêtre, un papier à fond gris, moucheté de fleurs, mais noirci par le temps et gras. Une table à ouvrage en acajou, la cheminée encombrée d'ustensiles de cuisine de la plus vile espèce, 2 falourdes entamées, un chambranle en pierre, sur lequel étaient çà et là quelques verroteries mêlées à des bijoux, à des ciseaux, une pelote salie, des gants blancs et parfumés, un délicieux chapeau jeté sur le pot à l'eau, un châle de terneau qui bouchait la fenêtre, une robe élégante pendue à un clou, un petit canapé sec sans coussin, d'ignobles socques cassés et des souliers mignons, des brodequins à faire envie à une reine, des assiettes de porcelaine communes ébréchées où se voyaient les restes du dernier repas et encombrées de couverts en maillechort, l'argenterie du pauvre à Paris, un corbillon plein de pommes de terre et de linge à blanchir, puis par-dessus un frais bonnet de gaze, une mauvaise armoire à glace ouverte et déserte, sur les tablettes de laquelle se voyaient des reconnaissances du monde de piété. Tel était l'ensemble de choses lugubres et joyeuses, misérables et riches, qui frappaient le regard. Ces vestiges de luxe dans ses tessons, ce ménage si bien approprié à la vie bohémienne de cette fille, abattue dans ses linges défaits comme un cheval mort dans son harnais, sous son brancard cassé, empêtré dans ses guides, ce spectacle étrange faisait-il penser le prêtre? Se disait-il qu'au moins cette créature égarée devait être désintéressée pour accoupler une telle pauvreté avec l'amour d'un jeune homme riche? Attribuait-il le désordre du mobilier au désordre de la vie? Éprouvait-il de la pitié, de l'effroi? Sa charité s'émouvait-elle? Qui l'eût vu, les bras croisés, le front soucieux, les lèvres crispées, l'œil âpre, l'aurait cru préoccupé de sentiments sombres, haineux, de réflexions qui se contrariaient, de projets sinistres. Il était, certes, insensible aux jolies rondeurs d'un sein, presque écrasé sous le poids du buste fléchi, et aux formes délicieuses de la Vénus accroupie, qui paraissait sous le noir de la jupe, tant la mourante était rigoureusement ramassée sous elle-même. L'abandon de cette tête, qui, vue par derrière, offrait au regard la nuque blanche, molle et flexible, les belles épaules d'une nature hardiment développée, ne les mouvait point. Il ne relevait pas Esther, il ne semblait pas entendre les aspirations déchirantes par lesquelles se trahissait le retour à la vie. Il fallut un sanglot horrible et le regard effrayant que lui lança cette fille pour qu'il daignât la relever et la porter sur le lit avec une facilité qui révélait une force prodigieuse. « Lucien !» dit-elle en murmurant. « L'amour revient, la femme n'est pas loin, » dit le prêtre avec une sorte d'amertume. La victime des dépravations parisiennes aperçut alors le costume de son libérateur et dit, avec le sourire de l'enfant, quand il met la main sur une chose enviée, « Je ne mourrai donc pas sans m'être réconcilié avec le ciel. »« Vous pourrez expirer vos fautes, » dit le prêtre en lui mouillant le front avec de l'eau et en lui faisant respirer une burette de vinaigre qu'il trouva dans un coin. « Je sens que la vie, au lieu de m'abandonner, afflue en moi !» dit-elle après avoir reçu les soins du prêtre et en lui exprimant sa gratitude par des gestes pleins de naturel. Cette attrayante pantomime que les grâces auraient déployée pour séduire justifiait parfaitement le surnom de cette étrange fille. « Vous sentez-vous mieux ?» demanda l'ecclésiastique en lui donnant à boire un verre d'eau sucrée. Cet homme semblait être au fait de ses singuliers ménages, il en connaissait tout. Il était là comme chez lui. Ce privilège d'être partout chez soi n'appartient qu'aux rois, aux filles et aux voleurs.